Oui, Seigneur. Donne-nous de la compréhension ce soir. Donne-nous de la grâce, la sagesse aux frères. Que ce soit ta parole que tu veux nous parler ce soir. Vraiment. Père, nous venons à toi ce soir pour entendre ta voix. Réveille notre oreille pour que nous entendions comme des disciples entendent, ou encore plus clairement, à quoi ressemble une vie dans le royaume et comment est-ce que tu veux nous y amener. Nous sommes volontaires de faire ce que tu nous dis de faire. Nous te louons aussi pour ce temps de la conférence, pour tout ce que tu nous as déjà montré et tout ce que tu veux encore nous montrer. Merci Père que tu nous as appelés pour ton royaume. Nous voulons vraiment tous y arriver. Nous te faisons confiance que tu nous amènes vraiment tous dans le royaume. Parle-nous ce soir. On continue avec le numéro Romains 9. Là, il est dit la vie pratique dans le royaume. C'est vraiment aussi bien d'avoir plus de communion à cela. L'expression pratique de la vie dans le royaume. Au début, et c'est très important, on a vu la vision. Dieu aimerait amener son royaume sur la terre. Et ce matin, on a aussi vu, c'est pour ça que Jésus est venu en tant que le roi. Parce qu'il en vient vraiment du royaume de Dieu. Dieu n'aimerait pas seulement sauver les hommes de leurs péchés, mais Dieu aimerait avoir des hommes pour son royaume. Il aimerait les gagner pour son royaume et amener son royaume sur cette terre. Et cette vision, nous devons vraiment la voir, hein. Devoir savoir clairement à quoi il en vient. Et cette vision, elle doit vraiment être pratique dans notre vie aujourd'hui. Le Seigneur ne montre pas seulement une grande vision élevée et il laisse à chacun de faire cette vision, mais le Seigneur montre aussi dans l'évangile de Matthieu, dans tous ces chapitres, dans tous ces aspects pratiques, à quoi ressemble une vie pratique du royaume. Ça, c'est si bien pour pas qu'on s'imagine des choses. Parce que sinon, à la fin, on pense, oui, louer le Seigneur, nous sommes dans le royaume. Et on vit d'une certaine manière, mais on ne sait pas du tout si c'est vraiment ce qui est dans le royaume. Et c'est pour ça, le Seigneur a déjà donné la constitution, Matthieu 5 à 7, il a montré quelque chose, à quoi est-ce que ça ressemble une vie dans le royaume. Mais là aussi, dans ce chapitre, tout ce que le Seigneur parle de ça, ça vient du royaume, comme quelqu'un a dit ce matin. Il n'y a pas de division entre le royaume de Dieu et ma vie personnelle. Donc je puisse dire, ah non, cette chose, elle a seulement à voir avec moi, là, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Non, le royaume de Dieu, il doit être visible dans toute notre vie personnelle. Une vie dans le royaume, ça a une expression pratique, ça on doit pouvoir le voir. Si on est vraiment des habitants du royaume, alors on doit le voir, ça, à nous. Ça, on doit le voir dans notre vie, dans notre conduite, dans notre marche, comment on fait les choses, comment est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on se comporte. Toutes ces choses, elles doivent vraiment amener, rendre le royaume de Dieu visible. C'est pour ça, dans la communion, qu'est-ce que le Seigneur y parle dans ces chapitres? Qu'est-ce qu'il dit? Comment est-ce qu'il aimerait nous amener dans son royaume? Et ce matin, le frère a déjà commencé qu'on voit un point important. Comment est-ce que le royaume peut être visible? C'est comment est-ce qu'on fait avec un frère qui a péché? Et c'était si bon de voir qu'on va complètement différemment que comment est-ce que va le monde et la religion. Dans le monde et dans la religion, si quelqu'un fait une erreur, il va être critisé, il va être jugé. Mais le Seigneur, il dit, dans le royaume des cieux, c'est différent. Parce que celui qui veut être le plus grand, il doit être le serviteur de tous. Et le plus petit, c'est le plus grand. Et si on veut vraiment aider quelqu'un, si quelqu'un il a péché ou bien il a fait une erreur dans quelque chose, on pourra seulement l'aider si on apprend à s'humilier. J'ai fait une expérience dernièrement. Il y avait une chose où le Seigneur m'a montré, c'est bien de parler avec un frère. C'était pas un péché, c'était simplement une chose qui j'avais l'impression, c'était pas si bon, mais c'était bien de parler avec lui. Et quand je suis allée dans cette discussion, le Seigneur m'a donné cette prière, pas seulement de m'humilier devant le Dieu, mais aussi de m'abaisser devant le frère. Et je suis vraiment allée et j'ai dit au Seigneur, je m'abaisse devant le frère, j'aimerais parler avec lui, de en bas à en haut, pas de en haut à en bas. Cette discussion était si bénie et à la fin, on était les deux remplis de joie, vraiment encouragés. J'étais vraiment reconnaissant au Seigneur. C'est ainsi qu'on doit apprendre. C'est aussi ce qui a été dit ce matin. Premièrement, d'aller au frère. Il y a tant de dommages qu'il y a déjà eu parmi nous. Parce qu'on voit qu'on pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Et au lieu d'aller directement avec la personne, on parle d'abord avec quelqu'un d'autre. Et après, cette personne parle avec quelqu'un d'autre et cette personne parle avec quelqu'un d'autre. Et à la fin, toute la moitié de l'Église le sait. Mais le pauvre frère qui a fait l'erreur, il ne sait pas ça. Et personne ne l'aide. Ça, on doit vraiment apprendre. Aussi parmi nous, ça s'est passé trop souvent. On parle si vite d'autres personnes. J'aimerais apprendre. Parler partout, mais avec les autres. Quand je vois quelque chose, d'aller vers le frère. Et là, ça montre vraiment si on a appris à être débonnaire et être doux. Là, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Ça a déjà été mentionné les dernières fois. Paul a dit, exhortez-vous chaque jour. On doit aussi apprendre comment est-ce qu'on peut s'exhorter, s'encourager les uns les autres. Là, c'était Matthieu 18 et dans Matthieu 19, le Seigneur continue. Et le Seigneur parle dans Matthieu 19, verset 3, des domaines de notre vie journalière. Au début, c'est la famille et le couple. Et le deuxième, c'est les enfants. Et le troisième, par rapport au bien matériel, ou bien aux richesses. Toutes ces choses, c'est vraiment ce qui a à voir avec le royaume des cieux. Je dois dire, j'avais une urgence pendant la préparation pour la réunion, parce qu'on a quelques points pratiques, on a écrit quelques points pratiques, mais parfois, il y a aussi un danger. Si on a des points trop concrets, qu'on l'appelle comme une règle ou un principe, et finalement on appelle ça une règle ou un principe, là j'aimerais vraiment dire qu'on suit le Dieu vivant. Même s'il y a des points qui sont écrits et qu'on aimerait parler de certains points ce soir, le plus important c'est que nous apprenions dans tous les domaines de notre vie. La Bible parle de tous ces thèmes, mais pas souvent de manière très courte. Dans les lettres de Pierre, il parle aussi de ces choses, du couple, avec un homme, une femme avec les enfants, les frères et sœurs, avec les non-croyants. Il parle beaucoup de choses pratiques. Parfois, c'est juste un verset, seulement une parole, une phrase. Ce n'est pas seulement beaucoup de choses. Ce n'est pas un long chapitre. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'on doit vivre par le Seigneur dans toutes ces choses. Il doit être dans tous les domaines de notre vie et de pouvoir dire, pour moi, vivre, c'est Christ. C'est pour ça que ce soir, ne pas prendre la parole. Il ne faut pas prendre la parole comme un principe ou des règles que nous devons suivre dans l'Église, mais simplement en tant qu'un conseil pour venir à Christ et de prendre le Seigneur pour dans tous les domaines de notre vie et de prier que ton royaume vienne dans toute ma vie, que ton royaume vienne dans toute la manière dont je vis. Et le Seigneur alors va aussi beaucoup nous montrer. On a reçu l'onction. Et le Seigneur dit, l'onction nous enseigne toutes choses. Jean même dit, on n'a pas besoin que quelqu'un nous enseigne parce que nous avons tous l'onction. Et l'onction veut tous nous enseigner ce qui a à voir avec le royaume. Pour ça que nous pouvons apprendre de l'onction. Pour le premier thème, si on peut dire ainsi, par rapport à au couple et à la famille, le Seigneur montre, je me demande toujours, ça m'impressionne toujours comment il répond aux questions tortues des pharisiens. Les pharisiens viennent avec une question courbée. Chaque fois, c'est quasiment écrit, ils essayent et lui demandent. Leur fardeau n'était pas d'apprendre quelque chose. Leur fardeau n'était pas de connaître la vérité. Leur fardeau était de trouver quelque chose pour l'accuser. Et le Seigneur savait cela. Et malgré tout cela, le Seigneur dit, il ne dit pas, ah non, je ne vous dis pas, non, non, avec vous, je ne veux pas parler, partez. Votre cœur n'est pas saint, vous n'êtes pas saint, je ne veux pas parler avec lui, avec vous. Si quelqu'un vient avec moi et je remarque que c'est pas saint comme il vient, mais il aimerait m'amener à la chute avec lui, je n'ai pas envie de parler. Mais le Seigneur n'était pas ainsi. Toutes ces questions courbées, il les a utilisées pour parler de la vérité. Ça, j'aimerais vraiment apprendre. Même une question pas sainte est vraiment une occasion de parler de la vérité de la parole. Même quand les disciples sont venus et demandaient qui est le plus grand, le Seigneur aurait pu. Il aurait pu dire, mais moi je suis le roi, je suis le plus grand. Il est le roi dans le royaume. Il leur a même montré qu'il est le roi dans le royaume. Et ensuite, les disciples viennent et demandent qui est le plus grand dans le royaume. C'est fou. Si j'aurais été le Seigneur, j'aurais dit, pour pas de dispute, je suis le plus grand. Mais le Seigneur n'a pas fait cela. Le Seigneur a utilisé les occasions pour amener la vérité. Il avait un tel cœur que nous apprenions. C'est si merveilleux. Il avait un tel cœur que nous puissions tous apprendre de lui pour tous les domaines de notre vie. Le Seigneur lui a montré, vous devez être comme des enfants. Louer le Seigneur à la fin, si on lit ça, on peut tous apprendre quelque chose d'important. Et aussi là, les pharisiens, leurs questions, les religions, les docteurs de la loi leur demandent si c'est permis qu'on peut se séparer. C'est quoi comme question, ça, c'est docteur religieux. Et ça, il utilise le Seigneur pour amener une vérité, pour montrer comment c'est précieux et saint le couple dans les yeux de Dieu. Ça, j'apprécie vraiment. Il dit au verset 4 ici, n'avez-vous pas lu? Il les amène toujours nouvellement à la vérité, la parole. Et ensuite, il cite de Genèse au verset 2. Chapitre 1 et 2. Commencement fit l'homme, le Créateur fit l'homme et la femme. Qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Quelle réponse! Le Seigneur a vraiment utilisé cela pour montrer quel était le but de Dieu dès le début. Qu'est-ce qu'il avait en tête? Les pharisiens, ils ne laissent pas ça. Ils disent, ils ont pensé, ils l'ont attrapé. Maintenant, ils peuvent l'utiliser pour faire quelque chose. Ils disent, pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Mais le Seigneur a vraiment exposé le problème. Moïse, à cause de la dureté de votre cœur, que Moïse vous a permis de répudier vos femmes, au commencement, il n'en était pas ainsi. Le problème, elle est de nouveau notre cœur. C'est vraiment notre cœur. Le Seigneur n'a pas vu le divorce dès le début. Dieu a fait l'homme et la femme. Et déjà, cette chose importante et aussi la sainteté dans la famille, dans la couple, l'ennemi veut vraiment détruire cela. Tous les cas, est-ce que le Seigneur parle en lien avec son royaume, avec la famille, c'est ce que aussi Satan utilise pour détruire le royaume de Dieu. Et si on regarde dans le développement des dernières années, comment ça va vite. Aujourd'hui, dans la société, tu ne peux plus définir la famille d'une manière sobre. En Allemagne, ils voulaient changer la loi pour changer la définition de la famille. Le Seigneur a dit, il les a fait en tant qu'hommes et femmes.
Et
il y a 100 ans, il y a quelques années, une famille, c'est un homme, une femme et des enfants. Mais aujourd'hui, les hommes aimeraient changer la définition. Ils disent, la famille, ça peut être aussi un homme et des enfants. Une femme et des enfants. Ou d'où est-ce que ça vient, ça? D'où est-ce que ça vient que les dernières années, cette corruption s'est dispersée? D'où est-ce que ça vient? Parce que Satan aimerait détruire le royaume de Dieu. Dans Genèse 1, Dieu a fait l'homme et la femme. Dieu a fait l'homme en tant qu'homme et femme. Directement après, au verset 27 et 28, multipliez-vous et régnez sur la terre. Le Seigneur, dans cette manière, il a donné à la famille de régner. Et la famille, comme le frère l'a déjà dit, c'est vraiment la base du royaume de Dieu, de l'Église. S'il n'y a pas de famille, alors il n'y a plus rien. À un certain moment, il n'y aura plus rien. Et Satan sait exactement que s'il le fait, de détruire la famille, de détruire le couple, de détruire les enfants, alors il va aussi détruire le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on observe un tel développement corrompu. Il y a des hommes qui viennent où tu peux simplement secouer la tête. En Allemagne, on ne peut même pas aller... La ministre de la famille, on ne peut même plus l'appeler comme ça. Elle fait tant de choses pour tout, pour t'autoriser. Elle a changé une formule que tu dois... Maintenant, c'est plus maman et papa, c'est le parent numéro 1 et numéro 2. Ça peut être maintenant... Maman, c'est maintenant en Allemagne depuis cette année. Pour toutes les... C'est toujours écrit maintenant homme, femme et divers. J'ai dit à quelqu'un, ça devrait s'appeler homme, femme ou pervers. C'est vraiment pervers. C'est si corrompu. Quelque temps, j'ai dû... Sur une offre d'emploi, maintenant, il faut toujours écrire ces trois... Mais là, quand j'ai dû écrire une, j'ai dit non, j'ai écrit seulement ces deux. C'est tolérer et c'est demander. Et c'est demander ça depuis en haut. Il y a 2 semaines, il y avait un politicien, Christopher Street. Dans toutes les nouvelles, tu vois partout comment ils vont dans la rue et qui célèbrent cette liberté. Chacun peut être comme il veut. Mais la parole a clairement dit clairement. Le Seigneur a montré, le Seigneur les a fait en tant qu'hommes et femmes. Pour ça que le Seigneur nous a fait ainsi. Tu ne peux pas encore ramener un autre sexe. Il n'a pas seulement fait l'homme. Dans la chrétienté, dans toutes les églises, la plupart des églises, ils acceptent que des hommes se marient, que des femmes se marient. Ce n'est pas un problème aujourd'hui. C'est si corrompu. Notre société est corrompue. ce soir, c'est vraiment important, c'est une stratégie de Satan pour détruire le royaume de Dieu. Et c'est pour ça que dans l'église à Sion, ça doit être différent. Et ça doit être comme la parole le dit, comme Dieu le dit. C'est vraiment important. Le Seigneur aimerait, Satan aimerait détruire la société. Et on ne doit pas être timide de parler la vérité. Ça ne veut pas dire qu'on doit juger les hommes. Mais le péché, on juge le péché. Si par exemple quelqu'un, si tu parles avec quelqu'un qui est homosexuel, aujourd'hui, de nos jours, si tu dis quelque chose comme ça, le Seigneur a dit, de telles personnes, Dieu va les juger. Le Seigneur a dit, Dieu jugera de telles personnes. Ça, c'est ce que la Bible juge. Ça ne veut pas dire qu'on doit juger les hommes, mais on doit être de tels hommes que Dieu juge ces choses. Viens au Seigneur. Le Seigneur peut te rendre libre de ça. Le Seigneur peut te guérir de ça. C'est une maladie. C'est ainsi. Si on le dit quelque part et dans toutes les églises, tu seras probablement jeté dehors, mais c'est la vérité de la parole. L'ennemi, il aimerait tout mettre sur la tête et pour détruire la famille. Mais le Seigneur montre comment la famille doit être. Et l'ennemi utilise aussi le divorce et la cupidité pour détruire la famille et le couple. Il y a un verset qu'on a aussi écrit, Malachie 2, 16, il dit clairement qu'il est le divorce, parce que c'est une stratégie de Satan. Il est la répudiation. Le Seigneur, on a lu, il a montré du début, ce n'est pas ainsi. Mais par le cœur endurci des hommes, ça s'est entré. Et j'ai regardé il y a quelques jours, les statistiques mondiales, c'est pas un couple sur deux qui se divorce. Quasiment 50%, si tu regardes dans tout le monde, dans le monde entier, c'est déjà venu si loin. C'est vraiment effrayant. Pourquoi est-ce que ça vient? Parce que le cœur de l'homme est dur. On ne veut pas se pardonner les uns les autres. Comme le frère a dit ce matin, tu fais une liste très longue contre les autres et après, tu ne te retiens plus. Ça, c'est dans le monde. Ça, c'est une chose. Mais si c'est parmi nous, les croyants, il y a quelque chose parmi nous qui ne va pas, dans le royaume de Dieu, ça ne peut pas être ainsi. Et dans l'Église, ça peut, si c'est ainsi, alors le royaume de Dieu ne peut pas venir. Le Seigneur a dit lui-même, un royaume qui n'est pas un avec lui-même ne peut pas tenir. Pour le royaume de Dieu aujourd'hui parmi nous, c'est important que dans la famille, dans le couple, que nous soyons un, que nous soyons premièrement un avec le Seigneur et un les uns avec les autres, que nous apprenions à pardonner, que nous apprenions les stratégies de l'ennemi, qu'on ne les accepte pas, et c'est si bon que si nous apprenons à se pardonner journalièrement les uns les autres et que nous pardonnions, nous humilions. Et aussi un problème qu'il y a parmi beaucoup de croyants, même parmi les croyants, c'est normal qu'on vive n'étant pas mariés ensemble. Et si tu dis quelque chose contre cela, tu as des problèmes. Et ça, c'est vraiment pas bon. C'est pas un bon développement. Ça, c'est un développement qui commence déjà dans leur cœur. Le Seigneur a dit dans Matthieu 5, le Seigneur a dit, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis. On doit vraiment venir au Seigneur pour qu'il nous laisse, pour qu'il nous purifie. On n'a pas pensé que ça ne me concerne pas. Ça, c'est des choses qui sont tous en nous. Toute notre chair, elle est corrompue, si t'es jeune ou vieux, si t'es marié ou pas marié. On a tous cette chair déchue. Et où il y a toutes ces choses qui sont en nous. on doit venir au Seigneur pour nous laisser guérir. Et si le Seigneur parle de cupidité, il est très clair. Il dit directement dans Matthieu 5, depuis le verset 27, quand il parle de l'adultère, mais si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, si c'est pour regarder une personne, si c'est pour regarder quelque chose sur Internet, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, arrache-le et jette-le loin de toi. Ça nous montre comment le Seigneur est radical. Il aimerait qu'on traite ainsi. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Si nous ne va pas ainsi avec notre chair pour faire un adultère. Par contre, dans 2 Timothée 2, 22, qu'est-ce qu'il a dit à Timothée, Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Apprends à faire avec ces choses. Il a dit, fuis les passions de la jeunesse. Pars. Fuis-les. On n'a pas pensé, ah, je suis si fort, je peux avec ça. Paul dit à Timothée, fuis. Si tu remarques que le désir vient, des pensées impures, une convoitise, c'est bon de les fuir. Et intérieurement, où est-ce qu'on fuit? On fuit au Seigneur. Psaume 18, verset 18, dit que le nom de l'Éternel est une toute forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sûreté. Et si on remarque qu'il y a quelque chose qui veut nous amener à nous tenter, c'est bien de fuir et de fuir au Seigneur, de l'appeler. Et le Seigneur nous a donné une offrande qui nous aide vraiment avec la chair pour vaincre ces choses, et c'est l'offrande pour le péché. Pour ceux qui sont nouveaux, il y a deux offrandes dans Lévitique qui ont à voir avec le péché. L'offrande pour le péché et l'offrande pour les transgressions. Pourquoi est-ce qu'il y en a deux? Parce que Dieu, d'un côté, aimerait nous pardonner tous nos péchés pour nous purifier et pour qu'on puisse avoir de nouveau de la communion avec lui. Mais il aimerait aussi que nous soyons libres du péché et que nous apprenions à régner sur le péché. C'est pour ça qu'il y a l'offrande pour les transgressions. C'est pour le pardon et pour être purifié des péchés qu'on a déjà péché et pour pouvoir se repentir. Alors on peut prendre Christ comme notre offrande pour les transgressions. On peut prendre son sang et revenir au Seigneur. Et c'est Simon qui est ça. Qu'on puisse revenir à la communion. Et quand on l'a utilisé, il n'y a plus de condamnation. Alors on ne doit plus non plus accepter que l'ennemi nous accuse et de dire « Ah, tu as fait ça. Ah, tu ne peux pas venir au Seigneur. » Non, on a une offrande pour les transgressions. Mais après, ou bien la même étape, on doit aussi prendre Christ comme notre offrande pour le péché. Et cette offrande pour le péché est d'apprendre à régner sur le péché. Et Dieu a déjà dit à Caïn, si le péché est à ta porte, et s'il y a des pensées pas pures, Dieu dit à Caïn, règne sur elle. C'est si bon de dire, je te prends comme une offrande pour le péché. Par toi, je règne sur ces choses. On ne doit pas faire ça par nous-mêmes, ça ne va pas marcher par nous, parce que sinon ça va toujours revenir. Ça va toujours revenir. Mais on s'appuie sur Christ et dire, par toi, je règne sur le péché qui est en moi. C'est vraiment important, parce que l'ennemi, elle aimerait premièrement les jeunes gens. Et ce n'est pas seulement pour les jeunes gens, mais c'est pour chacun. Il aimerait nous amener à la chute. Et 1 Corinthiens 6 dit, je vous lis quelque chose à cela, dans 1 Corinthiens 6, on doit vraiment voir que la cupidité, ce n'est pas une petite chose pour Dieu. C'est vraiment quelque chose de mauvais. 1 Corinthiens 6, verset 9, je lis. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Il y a une autre traduction. Ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, ni les débouchés. Ça, c'est le déboucher, c'est le premier point de la liste. Là, il y a une liste d'hommes, que des hommes qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et la première chose, c'est les débauchés. Ensuite, il y a les idoles, les idolâtres, les adultères. Quand le Seigneur parle de la famille et de la divorce, et là, s'il en vient d'entrer dans le royaume ou pas, c'est pas une chose à côté. Il dit les idoles, les adultères, les débauchés, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, ça doit nous donner un sentiment. Comment est-ce que cette chose est lourde? Pour ça, Satan aimerait nous amener à la chute. Pour ça que le Seigneur aimerait amener le divorce. Et c'est débouché parce qu'il sait que ça nous empêche d'entrer dans le royaume. Ça, ça les empêche vraiment. Après, louer le Seigneur au verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Là, il parle une bonne parole. C'est ce que vous étiez. C'est bien parce que c'est ce que nous étions. Quelques-uns de nous, nous étions ainsi. Mais, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Louez le Seigneur. Le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu, on est lavé et on est sanctifié. Si quelqu'un d'entre nous est vit dans un tel état, et là il en vient vraiment Paul, il parle qu'on vit dans la débauche, par exemple en vivant, en n'étant pas marié en tant que croyant. C'est si important de dire je change ça et directement. Quelqu'un d'entre nous, et le Seigneur peut sauver cela et on a de nouveau un chemin pour entrer dans le royaume des cieux. C'est vraiment bon. Vous étiez quelques-uns d'entre vous, c'est le passé. Quand nous revenons, nous ne laissons pas accuser par l'ennemi, mais on continue d'avancer avec le Seigneur dans son royaume. Quand il en vient du couple et de la famille, de vraiment demander au Seigneur qu'est-ce qui va avec ton royaume. Et quelques-uns d'entre nous avons des situations différentes. C'est vraiment une aide dans chaque situation. Pour quelqu'un qui n'est pas encore marié et qui cherche un compagnon, un partenaire, la parole dit très clairement, c'est bon de trouver, de chercher quelqu'un. C'est bien seulement question qui quelqu'un qui suit aussi le Seigneur. Ça, c'est vraiment une question très droite pour quelqu'un qui cherche quelqu'un. Ne pas venir sous un joug d'un non-croyant. Ça vient principalement pour le couple. Et le Seigneur a dit dans Matthieu 19, un joug, c'est quelque chose qui est souvent mis pour le service. Si tu sers quelqu'un, alors tu viens sous un joug. C'est pour servir le Seigneur, mais si c'est on vient sous un joug, il vient sous un autre, alors après il y a des problèmes. Il y a vraiment des problèmes. C'est quelqu'un qui n'est pas encore marié, qui cherche quelqu'un, et c'est si bon de dire au Seigneur, seulement quelqu'un qui veut vraiment te servir. J'aimerais même dire, c'est pas suffisant de juste dire quelqu'un qui est né de nouveau. Auparavant, j'aurais dit, ok, il doit être né de nouveau. Mais maintenant, j'ai envie de dire, ça ne suffit pas. Il y a aussi beaucoup de croyants qui sont nés de nouveau, mais qui n'ont pas le désir de suivre le Seigneur sur le chemin étroit. Mais avec une telle personne, il y aura aussi des problèmes. C'est pour ça que c'est mieux de dire avant, non, seulement quelqu'un avec lequel je peux vraiment te suivre, quelqu'un qui t'aime, qui veut aussi suivre le chemin étroit. Et avec qui je peux te servir. Ça, c'est pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Mais là aussi, des personnes qu'il a appelées plus tard, qui ont des personnes non-croyantes, Mais le Seigneur, il a aussi une parole saine et aussi une aide. Le Seigneur ne dit pas, on peut lire dans 1 Corinthiens 7, le Seigneur dit, ah non, tu dois directement te divorcer parce que ce n'est pas bon. Non, Paul dit, si tu es dans cet état, et si l'autre, il est non-croyant, il aimerait habiter avec toi, il te laisse dans ta foi, il est prêt à que tu continues, et il aurait dit, ne te sépare pas, parce que le non-croyant sera sanctifié par le croyant, et il dit même, les croyants de tel couple, ils sont aussi sanctifiés. Alors louez le Seigneur, si quelqu'un est croyant, on n'a pas avoir peur, ok, comment est-ce qu'il en sera des enfants, mais par le croyant, il sera sanctifié. Aussi pour de telles personnes, le Seigneur a une aide pour eux, pour les amener dans le royaume. C'est si bon. Si quelqu'un est dans une telle situation, il ne doit pas se laisser condamner par l'ennemi, qu'il a peut-être fait une erreur auparavant. Ce qui est auparavant, c'était auparavant. Le plus important, c'est qu'on suive le Seigneur aujourd'hui et de dire au Seigneur, peut-être auparavant j'ai fait une erreur. Certains d'entre nous ont vécu des séparations en tant qu'enfant. J'ai vécu deux séparations, deux divorces, mais on est dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui et dans lequel le Seigneur nous a appelés. Et aujourd'hui, on doit suivre le Seigneur dans son royaume. Le Seigneur va nous aider aussi dans les situations difficiles. Pour d'aller avec sa mesure. C'est pour ça que j'ai dit au début, il n'en vient pas de points, de règles, de principes, mais il en vient de ce que nous vivions le Seigneur et que dans toutes ces choses, nous prenions le Seigneur et de dire, Seigneur, aide-moi à te suivre. Aide-moi d'avoir une vie qui m'amène dans le royaume, qui te satisfasse. Et notre vraie famille, c'est aussi bien de voir. Le Seigneur a dit dans Matthieu 12, quand il y avait son frère et sa maman, il a dit, qui est ma mère? Qui est mon frère? Qui est ma sœur? Tous ceux qui font la volonté du Père. Cette parole, ce n'est pas seulement pour les couples, pour la famille, c'est pour nous tous, parce que toute l'Église, c'est notre vraie famille. Et là, il y a aussi les choses dont nous avons parlé ce soir. C'est si bon de voir l'Église comme notre famille. Et si nous venons aux enfants, Paul avait vraiment cette vue. Dans 1 Thessaloniciens 2, versets 7 à 11, c'est écrit là, donc point C, 10, il n'avait pas d'enfant. Paul, il dit, il était parmi eux comme une mère. Il les a s'en est occupé comme une mère. Et quelques versets plus tard, il dit, il les a exhortés et encouragés comme un père encourage ses enfants. C'est important. Il avait une telle vue des saints. Je me suis vraiment demandé, pour mes enfants, je sais que je dois m'occuper de mes enfants. Et plus ils sont petit, plus je dois m'occuper de manière intensive. Ça, c'est très clair. Tu ne dois pas me rappeler pour ça. Non, tu dois occupe-toi de tes enfants. C'est vraiment clair pour moi. Mais pour les saints, c'est souvent pas si clair. Est-ce qu'on voit les saints comme notre famille? On s'appelle souvent les uns les autres frères et sœurs, mais est-ce qu'on s'occupe les uns des autres comme des frères et sœurs? Comme quand on s'occupe d'enfants, comme on devrait s'occuper de parents. C'est si bon que si là, on apprend, il prie, et on demande au Seigneur de dire aussi, apprends-nous à vivre selon ton royaume, de s'occuper des uns des autres dans l'Église comme une famille, plein d'amour, plein de miséricorde, de se donner de la nourriture les uns les autres, de se consoler au lieu de critiquer. Comme quand je vois quelque chose dans mon fils, je ne veux pas rester à la table, je ne veux pas le critiquer, mais je vais l'aider, particulièrement s'il est encore petit, sans aussi apprendre de manière spirituelle avec les frères et sœurs. Et pour les enfants, j'aimerais encore dire quelque chose. Quel est le but pour les enfants? Dans le monde aujourd'hui, les enfants, les parents beaucoup de but avec leurs enfants, ça on le voit dans la, au jardin d'enfants, il y a une telle concurrence. Oh, ton enfant peut déjà lire ou mon enfant ne peut pas encore lire. Oh, je dois aller vite chez le médecin pour voir s'il n'a pas un problème de lecture. Oh, ton enfant peut déjà nager, le mien ne peut pas encore. Et quelques enfants, les parents ils les envoient d'une leçon à une autre afin qu'ils puissent apprendre un instrument, pour qu'ils puissent jouer du foot et puissent faire ci et ça. Beaucoup de parents veulent envoyer les enfants pour qu'ils puissent se développer super bien. Ça, c'est ainsi dans le monde. Comment est-ce que c'est à Sion? Quel est le but pour nos enfants? Le but doit être, pour le point C1, est-ce qu'ils soient prêts pour le royaume à venir? C'est important de mettre que tous nos enfants doivent être les prémices. Ça, c'est notre vision pour nous tous, et pas seulement pour les parents qui ont des enfants, mais s'il vous plaît, les frères et sœurs qui n'avaient pas d'enfants, priez pour les parents et les enfants. On est tous une famille. Les enfants sont tous sont nos les enfants à nous tous. Ça me réjouit chaque fois quand les sœurs plus âgées ont un fardeau pour les enfants. Et pas seulement les frères âgés, mais nous tous. Les enfants sont si importants et particulièrement à la fin de ce siècle, on a besoin d'une telle prière. Seigneur, amène-les dans ton royaume. Mais Satan fait aussi tout pour corrompre les enfants. En Allemagne, il y a quelque chose qui dit qu'au jardin d'enfants ou à l'école primaire, c'est enseigné qu'il y a des hommes et hommes en tant que parents et femmes et femmes. Et ça, c'est quelque chose qui est annoncé à l'école. Et là, ça montre que Satan veut corrompre nos enfants. Je suis souvent étonnée, il y a tant de la magie, les choses avec des démons, les sorcières, c'est vraiment effrayant. Auparavant, au carnaval, on était des animaux, on était des cow-boys, mais maintenant, les enfants sont des fées, des elfes, des sorcières. Il y avait un enfant au carnaval qui avait une tête morte. J'ai vraiment étonnée. Et puis en plus, je sais que les parents sont croyants, ils vont à l'église. J'étais si étonnée, si choquée. Après, une deuxième fille qui était avec une baguette magique. L'ennemi aimerait corrompre les enfants. Et ça a l'air d'être sans... pas grave, mais on a dit à nos enfants à la maison et aussi dans la à l'église aussi que les sorcières, ça c'est de Satan. Et quand il explique quelque chose de la magie des sorcières, on lui dit, mais ça vient de l'ennemi. Et ça, on le hait. Parce que l'ennemi utilise cela pour corrompre les enfants. Je remercie le Seigneur parce que je comprends de plus en plus. Et je vous encourage aussi à annoncer cela aux enfants et de leur dire que ce n'est pas bon. De dire aux enfants, Jésus-Christ ne veut pas ça, venez à Jésus. On doit annoncer la vérité aux enfants. Ils doivent venir entrer dans le royaume. Mais la plus grande encouragement, c'est que d'un côté, on ne doit pas non plus trop se faire de soucis pour eux, mais de prier fidèlement pour eux. C'est pour ça, prier continuellement, journalièrement pour les enfants de l'Église. On ne peut pas non plus les protéger, ce n'est pas non plus chemin pour nous. Le Seigneur ne nous a pas non plus enlevés du monde, mais que nous puissions vraiment prier que le Seigneur les garde et qu'ils puissent vraiment se tenir pour eux et d'être des petits Jean le Baptiste. J'aimerais que mon fils soit un Jean le Baptiste au jardin d'enfants. Quand il va à carnaval, il doit être revêtu d'une peau de chameau. Avec des sauterelles dans un tupperware. Qu'on puisse vraiment avoir un tel but pour tous les enfants. J'aimerais que mes enfants entrent dans le royaume et que tous nos enfants doivent entrer dans le royaume. C'est pour ça qu'à côté de la prière et à côté de la parole, on doit vraiment planter la parole dans leur cœur et leur donner aussi avoir de la sagesse. Comment est-ce qu'on peut faire cela? Mais ce qui impressionne aussi important, c'est d'être un modèle. Et ça, on vient aussi avec la famille dans l'église. C'est d'être un modèle. Le Seigneur n'a pas seulement enseigné, mais il nous a toujours laissé un modèle. Et ce qu'on doit dire à nos enfants, et ce qu'on doit aussi dire aux saints, c'est une chose. Mais ce qu'on vit, c'est quelque chose, tout autre chose. Je peux dire à mon fils, je peux lui annoncer beaucoup de choses, mais si je ne le vis pas, il va aussi le remarquer directement. Je peux, par exemple, j'ai toujours dit à mon fils, si on fait du vélo, on doit mettre un casque. Une fois, je devais juste faire un petit trajet. J'ai pris mon vélo sans vouloir prendre mon casque. Alors le Seigneur m'a dit, si tu ne prends pas ton casque, tout ce que tu as dit à ton fils, ça va annuler tout ce que tu as dit à ton fils. Alors j'ai pris mon casque. Et c'est souvent ça, est-ce qu'on vit ce qu'on annonce? Particulièrement les enfants nous voient tout le jour. Ils me voient toute la journée. Et ils voient exactement comment est-ce que je vais, comment est-ce que je traite avec chaque... certaines situations dans ma vie, et même avec des choses qui ne sont pas spirituelles, ils voient, comment est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je suis dans le repos du Seigneur? Est-ce que je vis ce que je leur annonce? Aussi avec les saints, comment est-ce qu'ils voient ça? Si je peux seulement enseigner ou si je le vis aussi, le modèle c'est si important. On peut lire les messages, le Paul a vraiment laissé un modèle aux saints, bien qu'il était un apôtre et qu'il pouvait vraiment pu demander que les saints puissent s'occuper de lui, mais il a travaillé jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'il voulait laisser un bon modèle aux saints. Il a annoncé à côté, il a prié après tous ses services qu'il a fait. Après, à côté de cela, il a aussi travaillé pour son pain quotidien, pour les saints même, parce qu'il avait un tel cœur. Que dans toute chose, il voulait être un modèle. Et ça, c'est important. Qu'on fasse aussi attention à cela. Aussi de prier. Dans tous les domaines de ma vie, j'aimerais être un modèle. Pour les enfants et aussi dans les troisième point, je crois qu'on n'a pas trop dire à propos de ça, parce qu'en décembre, on a déjà une communion par rapport à cela. Dans la Constitution, on a déjà dit beaucoup par rapport aux soucis de la vie et par rapport au bien matériel. Et là, il y a encore cette jeune homme riche, seulement pour dire seulement court, c'est heureux les pauvres. Un riche, c'est difficile pour lui d'entrer dans le royaume. Et ça, c'est aussi à voir avec mon cœur. On peut être riche matériellement, mais avoir et entrer dans le royaume. On peut aussi être pauvre et vouloir toujours avoir des richesses. Ça a vraiment à voir avec le cœur. C'est pour ça que notre cœur doit être libre de cet amour de l'argent. C'est aussi un point important où le royaume des cieux peut être visible pratiquement. Et là, les hommes voient aussi si on est pour le royaume ou pas. Je remarque aussi au travail, il y a tant d'occasions d'être très, très grand. Aussi parmi nous, parmi les frères et sœurs, j'aimerais lire un verset qui est aussi bon, et après on peut aussi s'arrêter, 1 Timothée 6. La parole a toujours une bonne exhortation. Ceux qui ont peu, ils doivent apprendre à faire confiance au Seigneur. La parole dit, le Seigneur va s'occuper de tout ce dont nous avons besoin. On n'a pas besoin de se faire du souci par rapport à la nourriture, à l'habillement, pas par rapport à, au travail, au, à l'appartement. Parfois, ça dure longtemps, mais louez le Seigneur. À la fin, le Seigneur dit, donne un appartement encore meilleur que ce qu'on pouvait s'imaginer. On a vraiment faire confiance au Seigneur. Il va vraiment s'occuper de tout et de ceux qui ont plus que ce dont ils ont. Il y a une bonne consigne dans 1 Timothée 6, verset 14. Mais qui doivent mettre leur espérance dans le Dieu vivant. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ceux qui ont mieux? Ils doivent faire les choses bien. Pas être riche dans les bonnes œuvres. C'est si bon de donner. Avoir de la générosité. Si je donne vraiment de manière libre, c'est vraiment une bonne, un bon médicament. C'est vraiment toujours un bon test. Est-ce que je peux me séparer de ça et donner avec joie? Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la liberté, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide. Il y a une traduction qui dit d'avoir un, pas un trésor placé, mais c'est un trésor. Si bon de s'amasser ces trésors célestes, ça c'est une bonne prière. Seigneur, apprends-moi comment est-ce que je peux utiliser mes biens terrestres pour amasser des trésors célestes. J'aimerais avoir un capital céleste pour ton royaume. C'est si bien ce que le Seigneur nous a donné, que nous puissions l'utiliser pour son royaume. Vraiment bon, si nous faisons cela, et d'être fidèles à ce que le Seigneur nous a donné. Il y a vraiment beaucoup de possibilités de donner aux frères et sœurs, d'avoir de la libéralité, qu'on puisse aussi vraiment chercher le Seigneur, que là, comment est-ce qu'on va avec les choses matérielles, que ce soit pour le royaume. À la fin de Matthieu 19, c'est un résumé de toutes ces choses. Le Seigneur dit, si en toutes ces choses on est prêt à laisser ces choses et mettre tout sous son royaume, qu'est-ce que sera la première et la meilleure récompense? C'est de régner avec lui dans son royaume. Pierre a dit, on a tout laissé, qu'est-ce qu'on reçoit? Le Seigneur a dit, vous recevrez de régner avec moi sur mon trône, dans mon royaume. Est-ce que ce n'est pas une récompense? Est-ce qu'il n'en vaut pas la peine de tout laisser? De mettre toutes les choses comme le couple ou bien la famille, de remettre au Seigneur les richesses, d'être prêt à tout laisser. Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Et en plus, le Seigneur, il y a encore, en plus de ça, il dit, tu vas recevoir 100 fois plus de tout ce que tu as laissé. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Pour ça, qu'on puisse vraiment garder ces choses dans notre cœur et prier que ton royaume vienne dans toute notre vie, que ton royaume soit vraiment visible.